tous au poste sur Divergence FM, le 93.9, avec le générique qui va annoncer l'émission théâtre maintenant tous les vendredis. Il s'agit de Prokofiev, un extrait de Roméo et Juliette avec Andrei Gavrilov au piano. Florent Robin au micro, donc les rendez-vous maintenant pour le théâtre, ça sera tous les vendredis avec mon complice Yves Gurcan. Bonjour Yves.
Oui, c'est un plaisir d'être avec toi Florent.
Donc tous les vendredis, nous allons essayer de faire un petit peu le point sur tous les spectacles qui se jouent sur Montpellier et région. Et on va essayer de recevoir un peu tout le monde. On voit les spectacles quand même avant de recevoir les invités. Et on va commencer avec un spectacle qui se joue actuellement au Théâtre des 13 Vents, hein, le Centre Dramatique National de Montpellier et Languedoc-Roussillon, pour un spectacle qui s'appelle Louise de Villemorin. J'ai le plaisir, le bonheur et l'avantage de recevoir Madame Coralie Séric. Bonjour.
Bonjour.
Louise de Villemorin. Louise de Villemorin, on connaît pour certains l'écrivaine, on connaît la femme de lettres. Est-ce qu'on peut peut-être resituer la personnalité de cette dame dans son contexte?
C'est vrai que moi-même, il y a quelques années, je pense que beaucoup de gens sont dans ce cas-là. Les gens connaissent le nom de Louise de Villemorin parce que c'est un nom qu'on a entendu. Et puis il y a les fameuses graines,
oui, c'est vrai.
La belle maison de commerce sur le quai de la Mégisserie à Paris. Mais en fait, c'est vrai que tout le monde ne sait pas exactement qui c'est. Des gens savent parce que ça a été la compagne de Malraux. Enfin, elle a fini sa vie avec Malraux. Mais elle est née en 1902 d'une famille cultivée. Elle a commencé à écrire des livres en 1934, dont le plus célèbre est Madame de, qui a été mise en scène par Rufus au cinéma, oui. Avec Daniel Darieux. Mais elle a écrit pas mal de romans et puis des poèmes. Et elle faisait aussi des dessins très drôles, ça, des dessins. J'avais pris pour une invitation à Paris, il y avait une montre, il y avait marqué en dessous à qui est cette montre, elle est à l'heure.
Coralie Séric, ce spectacle qui se joue actuellement au 13 Vents, en fait, il se présente sous la forme d'un monologue. Et pourquoi avoir fait ce choix du monologue pour nous exposer Louise de Villemorin?
Parce que je suis tombée sur des interviews d'André Parrino de 1957 pour la radio.
Justement.
Des interviews que j'avais écoutées il y a longtemps, mais bon, à ce moment-là, j'avais pas eu cette idée. Et quand je les ai écoutées, je me suis dit, il y a des choses, c'est trop bien, il faut en faire quelque chose. Et puis à un moment, en fait, c'est quelqu'un qui m'a dit supprimer les questions, parce que finalement, les questions au théâtre, dans la vie, c'est très important. Mais au théâtre, c'est autre chose, quoi. Et donc, du coup, on en a fait un monologue et ça permet, c'est vrai, de voyager plus dans le temps et dans la pensée. Parce qu'un interview, c'est quand même plus construit avec un début, un milieu, une fin, une chronologie, l'enfance. Tandis que dans un monologue, on pouvait se laisser plus aller à une sorte de fantaisie qui lui correspond, quoi.
C'est vrai qu'au théâtre aussi, les questions auraient pu parasiter les réponses.
Oui, et en même temps, il était merveilleux, Parrino, parce qu'il la pousse. Il est très respectueux, très fin, mais il la pousse et aussi c'est long. C'est-à-dire qu'il y avait le temps de la conversation et on a été obligé de couper, évidemment, parce que les interviews faisaient 2h40. Donc là, c'était un petit peu trop pour le théâtre.
Alors, ce qui est intéressant dans le spectacle, c'est qu'il y a quand même des moments très, très drôles, parce qu'elle est pleine d'esprit, Madame Louise de Villemorin. Elle est en même temps assez dure avec elle-même, avec son œuvre. Et en même temps, on apprend plein de choses sur tous les écrivains qu'elle a rencontrés, sur ses amours, ses amitiés, entre autres son amitié avec Jean Cocteau.
Ah oui, oui.
Qui est très important pour elle.
Très important, parce que Jean Cocteau, d'abord, lui a, comme elle raconte, quand il lui a écrit, quand elle lui a envoyé son premier livre, il lui a tout de suite répondu qu'il était sur le service de presse de Gallimard. Il lui a tout de suite répondu qu'il trouvait ça formidable et qu'il voudrait la connaître. Et puis, il y a un livre qui est paru, je ne sais plus trop quand, sur les lettres de Jean Cocteau à Louise de Villemorin. Et c'est des lettres d'amour, il voulait se marier avec elle. Mmh. Et il y avait un paragraphe très joli où il disait, maintenant je ne m'en rappelle plus très bien, mais ça finissait pour nous pourrons nous passer du reste du monde. Enfin, il était très fou d'elle, d'une certaine manière. Et ils sont restés très amis toute leur vie, quoi.
Et c'est chez elle, je crois, qu'il a écrit son livre « La difficulté d'être ».
Voilà, il était très ami avec la famille. Il connaissait bien les frères aussi. Non, ça, c'était vraiment un ami très proche. Mais bon, elle en a eu plusieurs. Hein.
Elle a eu des amitiés, elle a eu des amours dans le domaine de l'écriture, puisqu'elle parle à un moment d'Antoine de Saint-Exupéry.
Oui, alors Antoine de Saint-Exupéry faisait partie de la bande de ses frères et de sa jeunesse, vraiment, entre 18 ans et 20 ans, quoi. Et donc, lui a été, je pense, très amoureux d'elle. Elle l'a beaucoup aimé, mais je pense que lui a été plus épris d'elle. Parce qu'il a continué à lui écrire des lettres pendant très longtemps. Et voilà, mais elle était jeune, hein, elle avait 18 ans. Bon, et elle était assez papillonnante, je crois. Je crois, elle le dit. Hein,
elle voilà. Le dit elle-même, c'est ce que
elle
j'allais
dit,
dire.
Elle dit, voilà, j'avais un amoureux, ensuite un autre. Voilà, s'il m'amusait, j'étais contente. Mais s'il me disait des trucs qui m'embêtaient, bon, bah, voilà, je le laissais tomber. Hein.
J'ai un petit peu l'impression que c'est ce côté papillonnant, justement, qui en fait d'elle une femme très moderne, finalement, non ?
Oui, sûrement. Pour vous dire la vérité, je ne sais pas exactement ce que c'est que moderne, parce que... c'est une question. Mais en tout cas, c'est vrai que, disons que pour sa classe, pour sa famille, elle aurait dû rester mariée. Voilà, c'est ce qu'on faisait à l'époque.
Elle sortait quand même des sentiers battus.
Voilà, parce qu'elle a quitté son mari quand même avec ses trois filles. Et ensuite, elle s'est remariée une fois avec un comte hongrois. Mais sinon, elle était relativement libre, oui.
Elle avait d'ailleurs des amours masculines, mais aussi féminines, d'après ce que j'ai compris.
Alors, la femme de Dove Cooper, c'est un peu une boutade. Hein. Quand elle dit « j'ai eu Dove, j'ai eu Diana, mais jamais ensemble », c'est un peu une boutade, parce que je pense que c'était une liaison platonique avec Diana. C'était pas... parce qu'elle c'est pas quelqu'un qui était dans... Elle était... dans l'amour aussi, je ne sais pas, les lettres. En fait, je crois que c'est ce qu'elle préférait, écrire des lettres d'amour, en fait. et dans cette grosse correspondance de Duff Cooper et de Diana qui est sortie il y a un an et demi, où là, il y a de quoi faire un autre spectacle, franchement. Elle s'aimait énormément, Diana et Louise, et elles s'écrivent des lettres extraordinaires. Ces gens passaient toute la moitié de la journée à écrire des lettres, je crois, parce qu'il y a une correspondance énorme avec des tas de gens, Jean-Hugo...
Jean-Hugo aussi, oui.
Oui, Jean-Hugo qui habitait dans la région pendant longtemps. Et d'ailleurs, il y a des gens qui sont venus au spectacle qui m'ont dit « j'ai rencontré Louise de Villemorin chez Jean-Hugo ». Il y a une énorme correspondance qui n'est pas sortie, mais énorme correspondance aussi. Donc voilà, on écrivait quoi à cette époque et elle écrit très bien. Elle écrit comme elle parle en fait, parce qu'elle parle très bien. Et,
toujours avec beaucoup d'esprit. Toujours
voilà,
avec beaucoup
et ses lettres ne sont pas très différentes de son langage. Et d'ailleurs, elle dit à maman... Moi, j'aime raconter des histoires, j'aime pas écrire parce que c'est pas facile. Enfin, ça demande un effort, c'est vrai.
Oui, quand elle parle du roman, il y a un long passage sur le roman où elle parle justement, elle dit que le genre du roman, c'est pas ce qui l'intéresse
le plus. Oui, c'est
drôle
ça, parce qu'elle dit, mais non, le roman, ça n'existe pas. Et ce qui est intéressant, c'est la poésie et les mémoires. Ça, c'est... Mais moi, je comprends ce qu'elle veut dire. Après, elle pousse le... Je veux dire, elle pousse l'argument, mais elle est sincère et sérieuse sous ses pirouettes et quand elle dit je ne pense pas que j'ai une grande œuvre, elle le croit, elle dit c'est triste à dire, mais après elle dit vous me demanderez qui est-ce qui a fait ce qu'on appelle une grande œuvre, parce que finalement alors on a coupé, j'en connais des auteurs modernes qui ont beaucoup de succès, mais est-ce qu'on peut appeler ça une grande œuvre? Évidemment,
il y en a beaucoup qui sont
mettre,
des feux de paille qui ne durent pas,
c'est-à-dire qu'elle fait la différence. On peut avoir beaucoup de succès et pas avoir une grande œuvre dans l'absolu, dans la voilà, dans la pérennité du temps, enfin à travers le temps, voilà. Et c'est vrai.
Il y a beaucoup d'écrivains qui ont eu du succès en leur temps et qui sont maintenant complètement oubliés.
Mais c'est ignorés, ce qu'elle dit, par exemple, elle parle. Elle parle de Maurice de Cobra, la Madone des Sépiques, et moi je ne connais, c'est pas du tout, pour vous dire la vérité. Et alors on a coupé, mais moi je le sais quand je le dis. Mais quand elle dit ça, elle dit Maurice de Cobra a eu beaucoup de succès, c'est pas mal, hein. C'est... Mais est-ce que ça restera à travers les siècles, voilà. Et en fait, je pense que tout écrivain se pose cette question, tout artiste d'ailleurs, les peintres aussi, les cinéastes, enfin, les gens se posent cette question. Et c'est vrai que, mais je trouve que, moi, je pense que, comme elle dit, à un moment, elle dit, de toute façon, je fais de mon mieux pour le mieux. Et finalement, on peut rien faire d'autre que ça, faire de son mieux. Et puis après, voilà, les autres décident.
À un moment, quand elle parle du roman, comme vous le disiez tout à l'heure, elle parle de la poésie et des mémoires. Et dans la poésie, elle parle un petit peu de Rudebeuf.
Oui, parce qu'elle dit Rudebeuf, on l'entend encore. Et c'est vrai, Mignonne, Villon, elle dit, bon, les romans, s'il y en avait, voilà, il en reste zéro. Bon, alors c'est vrai, peut-être que le genre du roman était moins développé aussi. Puis alors, elle est maligne, parce qu'elle met quand même Balzac, Proust et tout ça dans les illustrateurs de leur temps, dans les mémorialistes. Donc, c'est là où... Voilà. En fait, elle est en train de dire les romans, ça reste quand c'est des grands romans et quand il y a... Je pense quand il y a une dimension poétique ou une dimension d'illustration de son époque. Voilà. Et c'est pas faux. Enfin, voilà.
On va faire une première pause musicale avec, justement, Rudebeuf chanté par Léo Ferré.
Qu'on entend toujours.
Que sont mes amis devenus, que j'avais de si prétenus, et tant aimés. Ils ont été trop clairsemés, je crois le vent les a ôtés, l'amour est mort. Ce sont amis que vent emporte, et ils vantaient devant ma porte, et les emporta. Avec le temps qu'arbre des feuilles, quand il ne reste en branche feuille, qui n'aille à terre. Avec pauvreté qui m'atterre, qui de partout me fait la guerre, au temps d'hiver. Ne convient pas que vous raconte comment je me suis mis à honte, en quelle manière. Que sont mes amis devenus, que j'avais de si prétenus et tant aimés. Ils ont été trop clairsemés, je crois le vent les a ôtés, l'amour est mort. Le mal ne sait pas seul venir, tout ce qui m'était à venir m'est avenu. Pauvre sens et pauvre mémoire, m'a Dieu donné le roi de gloire, et pauvre rente. Et droit au cul qu'en bise vente, le vent me vient, le vent m'évente, l'amour est mort. Ce sont amis que vent emporte, et ils vantaient devant ma porte, et les emporta. L'espérance de lendemain, ce sont mes fêtes.
Divergence FM 93.9, les vendredis théâtre. On vient d'écouter bien sûr Léo Ferré. Léo Ferré, le parrain de Divergence avec Pauvre Ruth Boeuf. Et nous parlons de Louise de Villemorin. Louise de Villemorin, c'est un spectacle, un monologue qui a lieu encore ce soir et demain au Théâtre des 13 Vents. Et nous recevons Coralie Sérig qui interprète ce monologue. On parlait de Louise de Villemorin, donc c'est vrai qu'elle a connu énormément de monde dans le domaine artistique. Vous me disiez hors antenne qu'elle avait bien connu Poulenc, Francis Poulenc, qu'elle avait connu Roger Nimier, qu'elle avait connu Orson Welles. C'est quand même assez impressionnant, toutes les amitiés dans le monde artistique. Léo Ferré aussi.
Ah oui, oui. Je ne sais pas si ça... Je pense que les choses ont un peu changé, peut-être. D'abord Paris, le Paris d'avant-guerre, et un peu après, c'était l'endroit où beaucoup d'artistes étaient là, finalement.
Tous c'était les plus
peintres,
facile,
avant-guerre,
peut-être.
Picasso, Quirico, enfin... Bon, après, ça s'est un peu déplacé dans les années 70. Paris a encore des beaux restes, hein, je ne dis pas. Mais disons que là, tout le monde était là, déjà. Et je pense que c'était un milieu qui finalement était peut-être plus restreint, et il y avait des femmes comme Nathalie Palais, comme Marie-Laure de Noé qui recevait chez elle, et tous ces gens-là se rencontraient assez facilement. Il y avait, c'était comme un alors maintenant elle a eu beaucoup d'amitiés très fortes, parce que je pense qu'elle était originale pour son époque, comme vous disiez. Elle avait de l'esprit, elle était drôle, elle était très drôle, elle était jolie. Elle était belle, elle était charmante, elle était bon. Donc ça, voilà. On ne devait pas rencontrer finalement tant de femmes comme ça qui étaient libres. À partir de 30 ans. Parce que je pense que la plupart des femmes étaient mariées.
Étaient dans des schémas.
Où elles n'étaient pas d'une... Bon, parce qu'elle venait d'une famille très... presque sa mère était... aristocrate, quoi. C'était quand même la grande bourgeoisie,
Et on parlait de son esprit et de son élégance, hein, ce qui me semble quand même qui ressort tout à fait dans le spectacle auquel on a assisté. Elle a eu aussi une amitié, un amour aussi très profond pour son éditeur, pour Gaston Gallimard.
Oui, elle a été très amoureuse de lui. Alors elle dit, c'est très embarrassant, mais je vais quand même vous raconter, parce qu'il était marié, en fait. Mais enfin, bon, c'est une époque, puis même les gens avaient des... Et elle l'a beaucoup aimé, oui. Et alors elle raconte qu'il était très, très secret, comme ça, très inaccessible. Mais en même temps, j'ai retrouvé des lettres plus tard où ils sont restés très amis et où il lui dit « mais tu m'as pas répondu », etc. Donc finalement, elle restait souvent très amie avec ses liaisons. C'était pas de l'ordre de... Enfin, elle a peut-être eu des tas d'autres amants qu'on ne connaît pas tous. Enfin, on ne les connaît pas tous. Et bon, qu'elle a complètement laissé tomber. Mais les gens comme Gallimard, Jean Hugo, tout ça, elle est restée amie. C'est-à-dire qu'ils ont continué à correspondre. Il y a quelqu'un qui a dit d'ailleurs, finalement, elle était fraternelle avec ses amants et elle était amoureuse de ses frères.
C'est joli.
Oui, parce qu'elle adorait ses frères qui l'ont beaucoup soutenue.
Et donc, dans tous les gens qu'elle a connus, on va revenir un petit peu sur Malraux. Malraux avec qui elle a fini ses jours. C'est Malraux, d'ailleurs, qui lui a conseillé d'écrire.
Voilà, elle raconte dans le spectacle qu'elle faisait de l'aquarelle et de la peinture et qu'un beau jour, elle l'a rencontré. Il lui a dit « mais vous devriez écrire au lieu de faire de la peinture ». Je pense que c'est parce qu'elle devait raconter. Elle devait avoir cette éloquence qu'elle a dans le spectacle, qui sont ses mots. Et je pense que c'était quand même... très frappant. Donc sinon, il ne lui aurait pas dit ça, je pense. Alors elle a dit, je ne sais pas comment je vais faire. Alors il lui a donné un exemple, et son premier livre, Sainte une fois, qui vient de reparaître chez Folio juste avant l'été, commence à cause d'un exemple qu'il lui a vraiment donné. C'est en regardant une plume volée, etc. Alors elle a eu une histoire avec lui assez courte, parce que je crois qu'elle a flirté avec quelqu'un d'autre, en fait, et il l'a très mal pris. Il est parti. Je crois qu'il était quand même. Il avait un sens de l'amour propre assez élevé. Et ensuite, au moment de l'interview, elle ne sait pas qu'elle va retourner avec lui. Donc, dans le spectacle, je dis moi, j'espérais beaucoup que j'allais le revoir. Et en fait, c'est ça qui est drôle. J'aurais voulu le mettre, mais beaucoup de gens le savent. Hein. Et donc, ensuite, elle l'a revu un petit peu et elle s'est. ils sont remis à vivre ensemble, 30 ans plus tard, presque. Enfin, 25 ans plus tard, c'est drôle, quoi.
C'est vrai que l'interview est de 1957. Et elle est décédée en 69.
C'est ça. Donc, c'est avant qu'elle retourne avec lui. C'est drôle, quoi.
Et d'ailleurs, dans le spectacle, il y a un moment qui est extraordinaire, que moi j'ai trouvé extraordinaire, c'est quand elle parle de son testament. On ne va pas déflorer tout ce qu'elle dit sur son testament, parce qu'en même temps, c'est très drôle, c'est plein d'esprit, c'est pétillant.
C'est un petit bijou, finalement, en soi.
C'est une merveille, quoi.
Et ce que j'aime là-dedans, c'est qu'elle est finalement... elle est sincère, parce que je pense que quand elle dit qu'elle voudrait dire les choses qu'elle n'ose pas dire, c'est comme quand elle dit avant, je trouve que j'aurais pu faire beaucoup mieux si j'avais risqué plus, etc. Ce qu'on pense tous, finalement. Et en même temps, elle a toujours un premier degré sincère, elle dit des choses très profondes, et il y a toujours aussi un second degré où elle pirouette, elle enveloppe ça avec finalement une façon de dire, voilà... Je dis des choses sérieuses, mais j'ai pas envie de vous plomber. Finalement, j'ai pas envie de
C'est exactement ça.
J'ai pas envie de vous tirer au fond. Donc voilà, on va quand même, tourner les choses d'une manière. On va quand même rigoler.
Beaucoup d'autodérision et d'élégance.
Oui.
Tu voulais rajouter quelque chose ?
Oui, et puis j'ai l'impression qu'elle s'amuse beaucoup à se contredire elle-même dans ses paroles. Et du coup, en tant qu'auditeur, enfin en 1957, et là en tant que spectateur, finalement, on ne sait plus quoi penser à la fin.
Oui, sauf qu'on se dit qu'elle est attachante, quoi. Elle est émouvante. Mais c'est vrai qu'elle dit « moi je me contredis toutes les 5 minutes, je suis tout à fait vrai en disant une chose, tout à fait vrai en disant le contraire. » Mais finalement, je crois que... tout le monde peut s'y retrouver, finalement, parce que c'est vrai qu'on a tous des contradictions, en fait. C'est vrai, les gens, on a tous des contradictions. Et mon père disait, il n'y a que les imbéciles qui ne se contredisent pas. Et,
Des contradictions, Dieu merci, parce que
mais oui.
La vie serait impossible sans contradictions.
Moi, c'était pas comme ça. Moi, j'avais toujours envie de ne pas être... de ne pas dire le contraire de ce que j'avais dit, justement, mais en même temps, si on dit des choses de cœur et des sensations, forcément, il y a des contradictions. Si on fait un essai philosophique pour l'université, bon, c'est autre chose.
C'est ce qui la rend très humaine, au final.
Très humaine et très vivante, je crois. Et elle est surtout, pour moi, intelligente, en fait. Mais intelligente dans le sens premier du terme, quoi, dans le sens de comprendre. Elle comprend, elle parle des choses de la vie en formulant des choses que, finalement... les gens disent, mais oui, c'est vrai, mais ils n'ont pas eu le temps ou l'idée de les formuler ou de les exprimer.
Voilà, Yves, tu vas peut-être nous rappeler le lieu, l'heure du spectacle. C'est donc ce soir et demain.
Oui, exactement. Alors, bien sûr, c'est les 13 vents. Et donc, c'est ce soir et demain à 20h45. Et c'est un spectacle, donc une représentation, pardon, qui dure 1h30.
Oui, 1h26, disons.
Oui. Le temps de se placer.
Ça dépend.
Madame Coralie Séric, merci beaucoup et on va se quitter avec un morceau qui est dans le spectacle, un Mozart, la sonate pour piano en ut majeur Köchel 545, que vous interprétez juste à la fin.
Je fais juste une petite page d'annandante, hein. Je ne fais pas toute la sonate, ce n'est pas un concert non plus. Mais merci beaucoup d'avoir été là.
Merci d'avoir été notre invité.
Un plaisir. Thank you.
Divergence FM 93.9, les vendredis de théâtre, c'est très difficile de parler après Mozart. C'était donc la sonate pour piano en 8 majeur, Köchel 545, et au piano, c'était la grande, la divine Maria Joan Pires. On va parler maintenant, Yves, d'un spectacle que tu as vu, qui se passe au théâtre Jean Vilar, qui s'appelle donc, le spectacle s'appelle L'Astico de Shakespeare, avec Clémence Massard. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot ?
Oui, tout à fait. En fait, ce qui se passe, c'est que Clémence Massard n'a pas pu venir nous rejoindre ce vendredi. Et donc, du coup, quand je suis allé voir la pièce, donc L'Astico de Shakespeare à Jean Vilar, eh bien, j'ai sorti mon magnéto Divergence FM. Je suis allé la voir et puis on a passé une belle demi-heure très agréable sur le plateau, juste après le spectacle. Et puis on a discuté, bien sûr, de cette pièce de L'Astico de Shakespeare qui, en fait, rassemble des textes liés à la mort, mais d'une façon tout à fait burlesque, avec ce personnage de L'Astico qu'elle s'amuse à interpréter dans un costume un petit peu affriolant. C'est très, très, très amusant. Et je ne vais pas vous en dire plus.
Juste un petit mot quand même, parce qu'on en parlait hors antenne avec Mme Coralie Séric de Clémence Massard. Et vous étiez très déçue, puisque vous jouez ce soir et vous ne pourrez pas la voir.
Oui, parce que je l'ai déjà vue au théâtre et je la trouve extraordinaire. Voilà, je suis complètement fan de Clémence Massard.
On va écouter tout de suite l'interview que tu as faite.
Allons-y.
J'avais eu l'idée de créer un astico au sein du Futsbarn Théâtre qui va venir ici à Montpellier bientôt. Et ce Futsbarn, j'en ai fait partie pendant 5 ans. On devait faire un spectacle sur Shakespeare avec plein de scènes de Shakespeare diverses et tout ça, faire une composition libre parce que c'est leur territoire de prédilection, c'est Shakespeare. Et moi, je me disais, je vais jouer un astico puisque c'est libre, puisqu'on en parle. Roméo, il parle de l'astico. Hamlet aussi, dans les sonnets, il parle de l'astico. Il y a plein d'endroits où il parle de l'astico, mais l'astico n'a jamais la parole. Alors, je me suis dit, puisqu'on est libre, je vais faire un astico. Ça permettra peut-être de faire le lien entre les scènes, entre les différentes pièces du Futsbarn. Puis ils n'ont pas voulu. Et puis finalement, j'ai quitté cette compagnie. Puis je suis revenu à l'occasion d'un spectacle à Londres. Il y avait un projet pour Londres, pour le Théâtre du Globe, qui est le magnifique Théâtre du Globe. Et là, j'ai dit, écoutez, vous allez au Globe, je viens avec vous. Voilà, ça, je ne veux pas rater ça. J'avais vu le Globe, je me suis dit, évidemment, comme Française, je ne pourrais jamais y aller. Et là, il y avait l'occasion, je ne l'ai pas raté. Et on a joué ça au Globe. Et ce petit astico a fait fureur. Il est devenu une sorte de mascotte. J'aurais jamais cru. Et je chantais la première chanson et la dernière. Je me suis dit, tiens, ce personnage me plaît. Je trouve qu'il est c'est trop léger ce que je fais avec. Il faut que je rentre dans la viande, dans le corps, quoi. Aller au bout du sujet et puis le prendre au sérieux. Parce que c'est pas marrant, et c'est marrant aussi, mais bon, c'est comme ça. Il faut y aller, puisqu'il faut y aller. Moi, je vais y aller, ça m'excite. Avec ce personnage joyeux, ce personnage amusant, je peux me permettre de rentrer dans un truc qui n'est pas lourd, sinistre, c'est déjà lourd, et j'ai envie que ce soit amusant, et que ce soit divertissant, et que ça fasse réfléchir. Et puis, peu à peu, j'ai rassemblé des textes. Puis, avec Philippe Cobert, on a attaqué le truc. J'ai pris tous les textes que j'avais rassemblés. Et il me dit, mais comment tu vas commencer ? Puis peu à peu, voilà. Je lui dis, je veux commencer par cette chanson et finir par celle-là. Entre-temps, je ne peux pas jouer avec cet astico. Bon, il y a plein de problèmes pour pratique, quoi. Pour comment on va passer d'un personnage à l'autre sur ces sujets. Ces textes extraordinaires. Quel on biche, hein. Alors, les fleurs du mal, c'est extraordinaire, on a intérêt à les relire et à les monter. Hein. C'est d'une modernité, à la fois un immense style, et puis c'est accessible à tous, c'est des mots qu'on comprend. C'est pas une poésie surannée, c'est vraiment, ça dit des choses, quoi. Et là, je me suis dit, je vais empoigner ça, et puis en faire Sacha Guitry, faire Sarah Bernard, faire tous les personnages que j'aime du passé, le théâtre, quoi. La mort au théâtre, en fait, c'est la mort qui passe par le théâtre. C'est ça qui nous a plu avec Philippe. Ça faisait 2 ans que je tournais autour de ces textes. Jean-Kélévis, je ne savais pas comment j'allais le faire. J'ai lu les 400 pages sur la mort. C'était super.
Au final, on a l'impression qu'à travers, même s'il y a des textes qui sont assez graves, finalement, vous restez farceuse.
Je suis comme une sorte de pitre. C'est drôle parce que je m'en suis rendu compte en voyant les photos du spectacle. Et en voyant les photos du spectacle, je me suis dit, mais je suis comme un clown. On voit un clown comme les Fratellini, vous savez, quand ils se mettaient des ballons pour jouer les femmes et tout. Je me suis dit, c'est incroyable, j'aurais jamais cru que c'était aussi burlesque. Au début, je me prenais très au sérieux ce que je faisais, sauf l'astico. Puis je me suis dit, mais c'est grotesque mon truc. Mais en même temps, je joue sur la frange un peu, vous voyez, entre le grave et le burlesque. Et c'est ça qui m'amuse depuis toujours et que j'essaye de pratiquer avec chaque pièce que j'aborde. Cette zone fragile entre le grave, c'est-à-dire le sérieux de ce que j'aborde, et je le prends de tout mon cœur, avec toute ma force de conviction, et je décale un peu, vous voyez. Du coup, ça permet au spectateur de rire de quelque chose de grave et de ne pas le prendre. Je ne lui fais pas la leçon, vous voyez. Il le prend sur le mode, surtout un thème comme ça, sur le mode il a le droit de rire. Ce que je souhaiterais, c'est pas consoler, mais que les gens sortent de là en disant, il faut vivre l'instant, il faut vivre, prolonger, produire de la vie, produire du bonheur, partager chaque moment est une fête possible. Alors des fois on est angoissé, on peut pas faire la fête, hein, mais que c'est possible, que chaque moment de la vie, il faudrait vivre, comme dit Rilke, comme si on allait mourir le lendemain. Vivre à fond pour pouvoir mourir à fond. Et ce que dit Jean Kelevitch, on ne peut vivre bien que si on sait qu'on va mourir. Et cette mort, on devrait la célébrer parce qu'elle est le garant de notre bonheur. Que si on n'avait pas cette mort, on en voudrait toujours plus, parce qu'on en veut toujours plus. Imaginez qu'on ne meurt pas, on en voudrait encore plus que ce qu'on en veut déjà. Donc chaque moment de bonheur, il est à notre disposition, à chaque instant. Mais on est mal élevé, je trouve, dans notre religion occidentale. On est mal élevé par rapport à cette vie précaire qu'on vit. Et puis aux âges qu'on traverse, à la beauté de l'enfance, la perte de l'enfance, la transformation. On meurt plusieurs fois dans la vie. Et on va goûter chaque âge de la vie. Vous voyez, chaque âge a son moment d'amour absolu. Et puis l'âge qui vient nous permet de nous détacher.
Se détacher d'une peut-être une sorte d'obsession de la mort, en quelque sorte.
Et puis d'obsession morbide. De toute façon, on meurt chaque jour. Déjà, se dire que la journée qu'on vient de passer, elle est morte. Donc si on se dit ça tous les jours, vous vous rendez compte le potentiel qu'on a pour célébrer la journée qui va arriver, quoi.
On a cette imagerie-là avec le métronome qui ouais. bat la mesure pendant tout le spectacle.
Ouais. Et la chanson de Cosimon, elle est bien aussi. Le temps, c'est le tic-tac de la montre. Et au début, quand je voulais faire le spectacle, je voulais dire au public, ça y est, j'ai mangé 1h30 de votre temps. Et qu'ils comprennent qu'on se mange, en fait. On est tous des êtres humains, on est tous là, maintenant, ici et maintenant, on vit. Et on oublie chaque instant qu'on peut respirer ensemble, même quand c'est difficile, même quand c'est violent, même quand c'est âpre, qu'on peut respirer cet instant qu'on vit ensemble, cette planète qu'on partage pour un temps.
S'il y avait une morale à ce spectacle, c'est qu'on est tous égaux devant la mort.
Disons que la mort, il n'y a pas de morale dans ce spectacle. C'est justement, je n'ai pas voulu faire la morale. C'est juste que les gens sortent de là. Peut-être ils sont un peu secoués par le discours de Jean Kelevitch, mais il ne s'agit pas de faire la morale, il s'agit de leur rappeler joyeusement qu'on va disparaître. On ne va pas pleurnicher pendant trois plombes. Moi, j'avais très peur de la mort quand j'étais jeune. Très peur. Je sais pas, je pensais à ça tous les jours. Je pensais aux condamnés à mort, surtout. Ça me rendait... Avant de dormir, je me disais, pourvu que je sois jamais condamné à mort, je m'imaginais dans ma cellule et qu'on me dise le lendemain, on va te couper la tête. Parce que c'était ça, la peine de mort est arrivée, est abolie très tard. Et tous les jours, je me disais... Parce que je suis une enfant de la guerre, donc je suis né en 43. Et j'avais la guerre dans mes oreilles encore. Je sentais la guerre. En 68, je me suis jamais plus, je verrais des estropiés comme je voyais quand j'étais petite dans la rue, qui avaient fait la guerre, qui étaient avec des moignons par terre, faire la manche, j'en ai vu. J'avais 4-5 ans, je m'en rappelle très très bien. Des gens sur des chaises roulantes qui avaient fait la guerre, qui avaient des petites pensions misérables. Ce spectacle, pour moi, il est curatif. Je me rassemble en me disant, bon, allez, encore un effort. Puis un jour, je finirai comme ça. comme tout le monde. Et puis voilà, je me rappellerai de ces beaux moments qu'on a partagés avec le public, quoi. Et puis j'ai pas fait des. Pour moi, j'ai pas perdu mon temps de jouer ça, vous voyez. Je perds pas mon temps. J'ai l'impression que c'est pas une pièce parmi d'autres. Nia nia nia, des trucs à la noix, des trucs qui m'emmerdent. Là, pour moi, j'ai la chance de pouvoir faire ça avec des textes fantastiques. Mais voyez, le dernier texte, c'est Philippe Cobert. Le texte, ma première rencontre avec la mort, avec la septicémie et tout ça, c'est vrai. Il a écrit ça dans les carnets d'un jeune homme. Vous avez quel âge ?
22 ans.
Eh bien voilà, il a écrit à 23, 24. Il a écrit ça et il a écrit, il avait peur de la mort. Peut-être parce qu'il a eu une septicémie quand il était jeune. Et c'est comme des gens qui ont manqué mourir, qui avaient un début de vie précaire. Ils sont se souvenir dans leur organisme. Voilà.
Merci Clémence Massin.
Merci à vous Yves pour Divergence.
Divergence FM 93.9, c'était donc l'interview que Yves, tu as faite avec Clémence Massard pour le spectacle L'Astico de Shakespeare.
Oui.
Ça s'est bien passé cette interview?
Ah ouais, c'était un moment très très agréable, très chaleureux. Et puis comme je le disais avant l'interview, on a discuté pendant une demi-heure, mais malheureusement il a fallu couper et c'était un choix draconien.
Difficile.
Oh oui, très difficile.
Tu vas nous rappeler peut-être quand ça se passe et où?
Aujourd'hui, ce soir, c'est la dernière représentation, si mes notes, je les retrouve.
Tes notes sont bonnes, c'est à
voilà,
quelle heure?
Voilà, c'est ça, c'est à 21h et c'est un spectacle qui dure 2h.
Et c'est au théâtre Jean Villard. Et moi, j'ai choisi, pour conclure un petit peu cet Astico de Shakespeare, d'une chanson chantée par Serge Reggiani, « Quand j'aurai du vent dans mon crâne », sur un texte de Jacques Prévert et Boris Vian. C'est tout de suite sur Divergence FM.
Notre Père qui es aux cieux, restez-y, et nous, nous resterons sur la terre qui est quelquefois si jolie. Quand j'aurai du vent dans mon crâne, quand j'aurai du verre sur mes os, peut-être qu'on croira que je ricane, mais ça sera une impression fausse, car il me manquera mon élément plastique, plastique, tic, tic, qu'auront bouffé les rats, ma paire de bidule, mes mollets, mes rotules, mes cuisses, mon cul, sur quoi je m'asseyoie, mes cheveux, mes fistules, mes jolis yeux cérules, mes couvre-mandibules, dont je vous pour les choix, mon nez considérable, mon cœur, mon foie, mon rable, tous ces riens admirables qui m'ont fait apprécier. Des duquets, des duchesses, des papes, des papesses, des abbés, des ânesses et des gens du métier. Et puis je n'aurai plus ce phosphore un peu mou, cerveau qui me servit à me prévoir sans vie. Les os le crâne venteux a comme j'ai mal de devenir vieux.
De retour sur les ondes du 93.9 à Divergence FM au studio du Boulevard Pasteur. Nous recevons maintenant les comédiens qui jouent en ce moment à la Vignette. Alors, il s'agit de Damien Valero et de Justin Jaricot, si je ne me trompe pas, et qui jouent en ce moment à la Vignette L'importance d'être d'accord, ce qui est une pièce, inspirée de Brecht ou avec du Brecht ?
Alors, dans le projet, comme ça a été amené, c'est une pièce d'apprentissage, il faut le savoir, de Brecht. Et elle a été proposée par un dramaturge allemand qui s'appelle Thomas Wick, qui est venu travailler avec nous en début d'année. Mmh. Et c'était un petit clin d'œil parce qu'on a travaillé avec deux pièces une pièce de Racine, une pièce de Beckett. Et pour le petit clin d'œil, lui est allemand et nous avait proposé de travailler sur une pièce allemande sur Bertolt Brecht. Mmh. Et nous avons pris le parti de jouer la pièce de Brecht. Mais cela se passe avec les difficultés de réadapter Brecht, parce que Brecht, le théâtre de Brecht, ne pouvait pas se jouer comme il est et obliger une adaptation, une mise à...
Une réactualisation, parce que la figure des aviateurs n'a plus trop de valeur aujourd'hui, quoi. Mmh. Ne parle plus à grand monde.
Oui, et puis quand j'ai vu le spectacle, j'ai vu que vous aviez insisté sur le fait de mettre des choses, entre guillemets, qui sont en rapport direct avec l'actualité d'aujourd'hui, en fait, avec notamment le témoignage de ce Malien à la fin, et puis avec cette histoire sur le CDSA, le texte de loi sur l'expulsion des immigrés en France, ça vous paraissait important de pouvoir parler comme ça de 2010 avec Brecht ?
C'est-à-dire, comme c'est porté le travail, on a fait un travail dramaturgique sur la pièce elle-même, qui posait la question après une chute d'aviateurs, la question de l'aide, est-ce que nous les aidons ? Est-ce qu'eux vous ont aidé ? C'est-à-dire, ça mettait en question le rapport au progrès, le rapport à la science. Et donc le théâtre de Brecht, il a pris un peu forme dans notre groupe au fur et à mesure de discussions autour du thème sur la question de l'aide, vraiment, proprement parlé. Et donc on a fait une sorte de petite mise en abîme où on a dit, ceux qui vont aider d'habitude, est-ce qu'on les aide à eux ? Donc ça, voilà, on a un petit peu déjà... pris un pas de côté sur la pièce en se posant la question de l'aide. Après, la pièce pose d'autres questions, quoi. Elle peut être lue d'autres façons, vis-à-vis du progrès technique, vis-à-vis de... Je ne sais, de...
Voilà, tout un... Oui, de la société moderne, en fait, en quelque sorte. Ouais. Et dans la pièce, on peut voir aussi un numéro de clown qui est plutôt une parodie avec ce monsieur Schmitt que vous avez construit de toutes pièces. Et quelle était la part de vous dans ce numéro à l'intérieur du spectacle ?
Le monsieur Schmitt lui-même était déjà une marionnette donc proposée par le théâtre de Brecht, et il a été donc d'une part, on va dire très personnellement au groupe, un fédérateur, puisque c'est quasiment la seule scène où tout le monde joue en même temps, parce que d'habitude c'est des chœurs qui s'opposent ou c'est des scènes qui sont assez découpées dans le temps, et celle-ci nous a permis de jouer déjà donc tous à la fois, et puis de participer tous à la création de ce personnage. Donc elle a été assez fédératrice, puisque c'est une sorte de métaphore en fait de la pièce elle-même, où un instant les comédiens se prennent à jouer carrément, quoi, jouent le jeu. Mmh. Souvent dans le théâtre de Brecht, on parle de distanciation, il y a un écart comme ça, une certaine. Donc nous on a travaillé sur une sorte de froideur comme ça, un petit peu. D'un fantasme, on va dire, communiste. Là, ils sont tous en rang, ils marchent bien droit, ils chantent tous ensemble, un chœur pas très personnel. Et là, pour le coup, les deux petits clowns, ils sont très investis d'un jeu. Et le personnage, après lui-même, il est assez dessiné, même s'il est, on va dire, en carton-pâte. Parce qu'il est, voilà,
c'est le cas.
C'est le cas, voilà. Donc, ça a été le fédérateur de la pièce. Il a été assez présent dans les phases de construction. Et...
En fait, au final, on se rend compte que jouer cette pièce pour vous êtes sept, c'est ça, sept comédiens, ça a été une aventure pour vous.
Toujours, comme c'est organisé avec les travaux pratiques de la Vignette, donc chaque année, c'est pas la même chose, effectivement, mais c'est vraiment quelque chose, une aventure forte, qui demande beaucoup d'investissement. Donc forcément, il y a des soirs où on travaille très tard. On a passé une semaine à Dieulefi, par exemple, un petit village...
C'est du côté de Montélimar, c'est ça ?
Ouais, un truc comme genre. Ouais. Chez une amie qui devait participer à la pièce, qui a participé, qui a mis son grain de sel, bien évidemment, mais qui n'a pas joué avec nous, faute de temps. Mais Mais effectivement, ça demande beaucoup d'investissement. Quoi.
Oui, c'est se retrouver entre soi. Enfin, il y a une sorte de un côté un peu fusionnel dans cette expérience.
Et là, redoublé par le côté du chœur, le côté choral de la pièce.
Oui.
Donc tout ce questionnement de nous sommes un groupe, le nous, c'est-à-dire la perte de l'individualité, donc toute la question qui amène vers, pour Brecht, je pense, vers un communisme un peu idéal comme ça, donc les intérêts personnels qui reculent. Et là, l'aventure se passait aussi du fait que personne ne se connaissait au début de l'année dernière. Et on a dû, en plus de créer cette pièce, apprendre à se connaître, apprendre à discuter entre nous, apprendre justement là, la discussion, ça a été un des gros travails, puisque parler à neuf, parce qu'au départ nous étions neuf dans le projet, parler à neuf ensemble, c'était une épreuve.
Oui.
Et nous sommes arrivés au fur et à mesure à voilà, trouver des bases communes de discussion, un vocabulaire commun. C'est un travail qui est répété avec les travaux pratiques chaque année, c'est de chercher dans les premiers mois du travail à avoir un vocabulaire commun par une pratique très, très rapprochée de la pensée avec la recherche dramaturgique, la discussion avec les intervenants. Donc là, pour le coup, Marie-Josée Malice et Judith Balzo, même si voilà, Frédéric Saccard est toujours présent et c'est aussi parlé...
Monsieur le directeur.
Voilà, monsieur le directeur du théâtre. Et une pratique très rapide, c'est-à-dire... on fait des propositions, on parle de la pièce et on fait des essais. Et on fait des essais sur scène, on se propose de faire... voilà, au début, la première tentative que nous avons fait, pour exemple, c'était de lire les premières didascalies et de mettre en place, en fait, le public avec nous, de discuter de comment allait se dérouler ce début de pièce.
Bah justement, en fait, par rapport au public, vous avez quand même insisté sur l'interaction qui pouvait se créer avec le public. Et d'ailleurs, on parlait de l'effet choral où vous chantez ensemble, etc. Et finalement, vous avez su comment dire, maîtriser le fait que vous soyez nombreux et le fait que quand on est au niveau du lieu, en fait, le public est de chaque côté. Donc vous êtes au centre, vraiment, le public est à gauche et à droite. Et vous,
C'est bifrontal.
Et on dit à cour et à jardin, mais c'est,
oui.
C'est pareil.
Oui, oh, ça va. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que les comédiens sont à la fois à côté cour et à la fois côté jardin. Et du coup, ça crée vraiment ce côté intimiste et une relation avec le public.
Oui, la proximité due à la taille de la scène. On joue sur 6 mètres, donc d'un public à l'autre. On joue sur le regard avec le spectateur, donc le spectateur est éclairé tout le long du spectacle. On s'est beaucoup posé la question justement de l'interaction avec ce public-là, donc qui est présent, qu'on accueille au départ, qu'on fait s'asseoir. Et on s'est beaucoup posé la question justement de le faire interagir. Donc il y a une part du spectacle, à un moment donné, il y a des questions qui sont posées au public et on avait cherché d'aller plus en avant vers cela. Mais on est revenu pour des raisons déjà d'ordre pratique où ça demandait une certaine virtuosité que de faire vraiment interagir le public vers des questions qui pouvaient un peu dépasser le théâtre et du coup faire arrêter même le théâtre pour rentrer dans un espace qui aurait été peut-être un peu plus du théâtre situationniste où les gens commençaient comme une sorte d'AG. Et là, on dépassait un petit peu notre cadre ou en tout cas nos compétences vis-à-vis de ça.
Et du temps aussi. Il y avait du temps au moins. Bon.
À propos de temps, je vois que le temps passe.
Ah,
est-ce
déjà
que vous pourriez peut-être nous donner un tout petit extrait, un très court extrait, si vous le voulez bien.
Du poème,
oui.
Par exemple.
Oui. Par exemple.
Tu veux que je fasse ma partie ?
Oui, juste après. Alors, c'est un poème de Pasolini, de Pier Paolo Pasolini, qui est extrait d'un poème qui s'appelle Victoire. Et c'est un moment de la pièce qui est une césure, en fait, avec la pièce de Brecht, où Pasolini étant, on va dire, un des derniers philosophes communistes quoi, qui a écrit, qui soit important aujourd'hui. Voilà, ça permet de faire la césure.
Et c'est Justin Jaricot qui va nous le lire.
Les jeunes Cervi, mon frère Guido, les garçons tombés à Reggio en 60, avec leur chaste, leur fort, leur fidèle regard, foyer de sainte lumière, le scrute, dans l'attente des paroles anciennes. Mais lui, héros désormais déchiré, ne trouve plus désormais la voix qui touche le cœur. Il s'en remet à la raison, qui n'est pas raison, à la sœur triste de la raison, celle qui cherche à saisir ce qu'il y a de réel dans le réel, avec une passion qui refuse tout extrémisme, toute témérité. Bon, évidemment, le poème continue, mais je ne vais pas tout lire, c'est très,
très on est pris par le temps, on est pris par le temps.
Merci beaucoup.
Yves, tu peux nous résumer quand ça a lieu? C'est ce soir à 19h15 au Théâtre La Vignette.
Et voilà, tu as tout dit.
J'ai bien appris ma leçon.
Et l'important, c'est d'être d'accord, bien évidemment.
À l'heure, surtout.
Oui, venez à, voilà, à 18h55.
Les places sont limitées, oui.
Alors, on va se quitter avec un petit extrait de l'opéra de Katz sous la complainte de Macky le Surineur avec les chœurs et orchestres de l'opéra de Francfort sous la direction de Wolfgang Reinhardt.
Sie werden heute Abend eine Oper für Bettler sehen. Weil diese Oper so prunkvoll gedacht war, wie nur Bettler sie erträumen. Und weil sie doch so billig sein sollte, dass Bettler sie bezahlen können, heißt sie die Drei-Groschen-Oper. Und der Haifisch, der hat Zähne, und die trägt er im Gesicht. Und McKeister hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht. An einem schönen blauen Sonntag liegt ein toter Mann am Strand und ein Mensch geht um die Ecke.
Divergence FM 93.9, les vendredis théâtre. Ce qu'on vient d'entendre, bien sûr, c'est Kurt Weill et Bertolt Brecht pour l'opéra de Katsu. L'extrait s'appelait La Complainte de Macky le Surineur. Et c'était les chœurs et orchestres de l'opéra de Francfort sous la direction de Wolfgang Reinhardt. Yves, maintenant, nous allons recevoir Catherine Germain et Philippe Foch pour un spectacle qui s'appelle
Le Concert.
Et qui a lieu donc au domaine d'eau.
Et tout à fait exact. Et donc, on est en présence des deux comédiens et Bonjour. Musiciens. Ils Bonjour. Font un petit peu tout Bonjour. Dans ce spectacle. Et simplement commencer un petit peu par l'idée principale. Enfin, c'est là, vous faites partie de la compagnie de François Cervantes, l'entreprise. Et François Cervantes est très attaché à l'idée du clown, n'est-ce pas ?
Ça fait pas mal d'années, plus de 20 ans maintenant qu'on est dans cette recherche-là. Après, il y a eu d'autres spectacles, puisqu'il est auteur avant tout, donc il écrit pour des formes, il s'intéresse aux formes forcément du théâtre, et le clown a fait partie, avec le masque aussi, d'une recherche assez approfondie, oui.
Et justement, alors cette pièce, c'est l'histoire d'un musicien qui joue de la percussion, Et d'un clown qui est aussi violoncelliste, c'est bien ça ?
Disons que le clown n'est pas forcément violoncelliste. Elle est surtout clown, c'est-à-dire elle vient, elle rentre dans l'univers du musicien, parce que lui, Philippe, le musicien qui est en solo, Philippe est en solo, et moi, je rentre après, c'est-à-dire qu'elle vient parce qu'elle est vraiment attirée par le musicien, attirée par la musique, au point qu'elle est raide dingue de ce musicien, mais elle n'a pas forcément possibilité d'être là, puisqu'elle n'est pas justement vraiment musicienne. Donc elle emprunte un violon. Celle, au fond, elle ne sait pas non plus s'en servir, mais elle vient parce qu'elle veut rencontrer cet homme-là.
Enfin, elle s'en sert un petit peu.
S'en sert un peu.
C'est une intrusion clownesque.
Oui, c'est très décalé. Ces deux mondes, voilà, ça parle d'un endroit où la musique et l'amour sont un sujet, sont imbriqués l'un dans l'autre. Qu'est-ce que le sentiment amoureux va modifier dans le moment musical de Philippe ? Parce que c'est, au fond, c'est un concert perturbé, mais c'est surtout en fait une chose qui devient musicale de bout en bout. Leur altercation est musicale et le final est musical. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la relation. Voilà, les sentiments qui deviennent musique en s'échangeant l'un l'autre leurs univers.
Absolument.
J'adore. C'est dire. Parfait.
Non, c'est...
Mais en fait, l'esprit de la pièce, c'est aussi de la représentation, en tout cas, c'est aussi de ne pas oublier le spectateur et de le toucher à travers cette histoire d'amour qui est musicale et clownesque.
Oui, c'est un concert. Ça s'appelle le concert, c'est un concert. Donc, je commence à jouer. Et donc, le public assiste à un concert. Et tout d'un coup, cette musique harmonique, parce que je joue des tablas indiens, c'est un ensemble de tablas qui s'appelle le tarang. Donc, c'est une percussion particulière parce qu'elle est accordée et très mélodique et très harmonique. Mmh. Donc, finalement, les sons que se dégage ce solo sont des sons. Qui sont comme on appelle ça les attrapes rêves, là c'est des attrapes clowns si vous voulez.
L'image est très belle.
Arletty est attirée par l'harmonique du son qui se dégage du solo et elle rentre dedans, mais comme un son en fait. Elle rentre, son amour c'est un son, elle est attirée par le son et tout ça c'est une histoire, c'est un concert à l'intérieur duquel il y a une histoire d'amour. C'est François Cervantes, quand il nous dirige, il nous dit « Vous êtes dans un espèce d'opéra. C'est un petit opéra. Chaque son, chaque mot, chaque sentiment, c'est de la musique. » Donc, le public assiste à un concert avec un clown et un musicien. Et de bout en bout, c'est de la musique à l'intérieur de laquelle il y a de la colère, de l'amour, de la tension. Et voilà, c'est ça.
En tout cas, le public, l'endroit où il est dans le présent d'un concert, forcément, mais du coup, dans le présent de cette ouverture, cet écartèlement sur ce rapport qui surgit, c'est ce que disaient des gens hier soir en le voyant, c'est effectivement, tout d'un coup, il découvre que le clown les met à l'endroit du sensible. Ce que vient dire le clown, son amour, c'est aussi l'amour que le public a pour le théâtre, que les acteurs ont pour le public aussi. Il s'agit vraiment de ce qu'on appelle la relation dans l'ordre du spectacle vivant. C'est qu'est-ce que c'est qui nous met en contact dans la chair, en vibration, les uns avec les autres. Donc c'est très dans le présent absolu de notre rapport. Et le public le reçoit de plein fouet parce que c'est très humain d'être en contact les uns avec les autres quand il s'agit du cœur qui bat, enfin des choses
sentiments.
De l'ordre du sentiment et de ce qu'on fait ensemble.
Et c'est difficile alors de mêler à la fois la musique et le texte qu'on doit apprendre.
On est au bord de l'autre, je dirais que moi en tant que musicien je dois aussi porter la voix sur un plateau et Arletty en tant que clown elle doit aussi faire sonner son violoncelle. Donc on est au bord, elle est au bord de la musique, je suis au bord des mots et finalement qu'est-ce que c'est l'amour qui essaie d'être au bord de l'autre, quoi, c'est d'arriver au bord du territoire de l'autre et est-ce que ces deux territoires c'est pas qui fusionnent mais c'est qui se mélangent de manière harmonique et c'est un peu ça la pierre angulaire de ce travail, c'est qu'avec Catherine et moi on se connaît depuis très longtemps à travers la compagnie, on se connaît depuis 25 ans 20 ans et François il avait envie à travers le fait qu'on se connaisse, qu'on s'aime, quoi, du fait qu'on ait beaucoup travaillé ensemble, qu'on ait vraiment qu'il y a un fond d'amitié profond, on ait suffisamment de matière et d'essence pour pouvoir traverser et aller au bord de l'autre. Et c'était ça l'essence de ce spectacle, c'est vraiment d'aller chacun au bord du territoire de l'autre. Quoi.
On est en fragilité là-dedans et on l'a voulu, cette fragilité. Ne sachant pas la musique, moi, mais l'abordant vraiment en amateur à côté, et Philippe découvrant aussi le jeu théâtral, c'était se déplacer, se transporter. Le transport amoureux, c'est ça, quoi. Mmh. On prend un transport en commun, on va se chercher, et du coup, on se déplace de nos univers habituels.
Oui, et puis ça crée une forme de complémentarité. D'un côté, un artiste, d'un côté, une comédienne. Enfin, ça permet de faire un tout, en fait.
En tout cas, d'un côté et de l'autre, ce que disait Philippe, deux essences, deux natures, deux parfums différents. Après tout, on a dans ces métiers-là des formes différentes de les exprimer, mais il s'agit dans tous les cas de venir témoigner d'une intériorité poétique, je crois. Après, on est devenu musicien, on est devenu comédien, mais tout ça, ce sont des gens qui ont des choses à partager de l'ordre de la poésie, je pense, avec le public, ça c'est sûr.
Et surtout, à l'intérieur de ce qu'on fait, je pense qu'il faut de la transparence, de l'ouverture pour que se laisser traverser par les choses. Mmh. Pas se dire, moi je fais ci, je fais ça, on est trop dans des étiquettes, on colle des étiquettes de partout. Et à mon avis, justement, il faut enlever les étiquettes et se laisser traverser par... François parle des fois du silence dans les choses. Et c'est aussi par justement laisser les choses se faire et se laisser surprendre. Parce que le moment où on se dit ça y est, je touche à quelque chose, c'est le moment où on arrête de toucher justement à la chose. Et je pense que le tout, c'est de jamais croire qu'on est propriétaire de quoi que ce soit. On est juste traversé par. Mais voilà, donc c'est ça notre affaire, quoi.
Le leitmotiv.
Voilà.
Très bien.
Voilà. Yves, tu peux nous rappeler où ça se passe et quand ?
Eh bien, c'est bien sûr au Domaine d'eau. C'est le concert qui, bien sûr, sera perturbé par le clown. Et donc, c'est ce soir et demain à 20h30.
Et vous êtes venu avec une musique dans votre escarcelle.
C'est un petit bout du final. Alors, on joue dedans. Donc là, c'est un final. C'est la bande-son qui nous accompagne. Donc, elle est sans doute. Mais voilà, ça va vous donner un petit parfum du final.
Merci à vous. On écoute ça tout de suite.
Merci. Thank you.
Divergence FM 93.9, les vendredis théâtre, les vendredis théâtre. On a reçu beaucoup d'invités aujourd'hui et on reçoit maintenant pour conclure ce plateau théâtre. Il était une fois Gustave Flaubert. J'ai le plaisir de recevoir monsieur Jacques Bioulès et monsieur Jean-Claude Bonifay. Et nous allons parler tout d'abord un petit peu du théâtre du Hangar. Si vous le voulez bien.
Je le veux bien, oui.
Puisque l'année dernière, il y avait eu 4 costumes en quête d'auteur. Et oui. Je crois qu'on avait suivi tous les spectacles. Oui, on avait reçu tout le monde à Divergence.
Tout à fait.
Et cette année, il est plutôt question d'écrivain.
Voilà, question d'écrivain avec le titre, comment dirais-je, qui annonce ses singulières perspectives. C'était que chaque écrivain choisi nous embarque dans des, perspectives particulières. Voilà. C'est pour ça que nous avons pris ce titre.
Dans les écrivains choisis, vous me dites si je me trompe, il y a Nathalie Sarraute.
Oui.
Il y a Michel Léris.
Oui.
Et j'en oublie un.
Raymond Roussel.
Raymond Roussel, voilà, c'est celui que j'oublie. Et puis bien sûr, pour finir, ça sera Céline.
Voilà, mais il y a aussi Le Laveur de visage de Fabrice Melchiot, qui est un spectacle tout à fait extraordinaire. Et voilà, je me mets bien devant le micro pour bien qu'on m'entende.
Le technicien nous félicite.
Ça serait dommage que mes mots s'échappent dans le vent. Voilà.
Alors, ce parti pris de choisir des écrivains cette année.
Ce parti pris parce qu'il me semble qu'il y a un théâtre important, à savoir qu'il me paraît nécessaire de faire connaître des langues et des langages que très souvent on a l'occasion de regarder dans un livre, mais qu'il est bon par moment de faire entendre sur un plateau. Parce que la résonance d'une phrase sur un plateau n'est pas du tout la même que celle qui est dans un livre. Et surtout parce que ça donne envie d'aller voir ou de lire après les textes qui ont été joués. Mmh. Je suis très heureux de savoir que Gustave Flaubert, à la sortie du spectacle, tous les gens disent « maintenant, on va lire Flaubert ». Pour moi, ça, c'est une réussite. Ce sera la même chose, j'espère, avec Roussel. Ce sera la même chose avec Fabrice Melchiot, avec Nathalie Sarraute, avec Michel Léris, avec Céline. Voilà.
Alors vous commencez quand même avec un poids lourd, avec Gustave Flaubert. Pourquoi avoir choisi Gustave Flaubert? J'imagine que, bon, bien sûr qu'il y avait des affinités, vous aviez des affinités avec ce cher Gustave.
Oui, je dirais en langage un peu brut, c'est un ami depuis toujours. On prend presque des verres tous les soirs ensemble, puisque je l'ai lu tous les soirs ensemble. Nous étions tous les soirs ensemble. Pourquoi? Je vais expliquer pourquoi. Parce que quand j'avais 12 ans, mon grand-père m'a donné un livre, Bouvard et Pécuchet. Et quand j'ai lu Bouvard et Pécuchet, je me suis dit, c'est extraordinaire. Et j'ai donc lu Flaubert, mais très, très sommairement.
Bouvard et Pécuchet, si je ne me trompe pas, c'est le dernier roman qu'il a écrit.
Voilà,
il est même inachevé, d'ailleurs.
Il est même inachevé, il est mort juste en terminant. Il n'est pas fini. Non.
Et donc, il est beaucoup de questions dans le spectacle de Bouvard et Pécuchet. J'ai noté aussi Salammbô. Il est question du dictionnaire des idées reçues. Voilà. Il est question de Madame Bovary. Il y a aussi des extraits de sa correspondance, si je ne me trompe pas.
Il y a des extraits de sa correspondance. C'est-à-dire, j'ai essayé de résumer dans 1h25 tous les échantillons colorés que possède Flaubert. Et j'ai pris des comédiens qui, en fonction de leur personnalité, de leur timbre de voix, apportaient en plus, avec ce timbre et cette sonorité de voix, des perspectives nouvelles dans le langage de Gustave Flaubert. Ça aussi, c'était très important. Et la lumière aussi a été faite avec ce parti. Apporter quelque chose en plus pour expliquer Flaubert.
Jean-Claude Bonifay, bonjour.
Bonjour.
Flaubert, comment est-ce que vous avez abordé, vous, ce spectacle sur Flaubert?
Assez simplement, en fait, parce que je connaissais déjà un peu l'œuvre de Flaubert. C'est un auteur qui m'avait marqué quand j'avais 18 ans. Enfin, j'avais surtout lu Madame Bovary, l'éducation sentimentale, ça m'avait beaucoup, beaucoup plu. Et après, j'avais lu Bouvard et Pécuchet, mais bien plus tard. Et voilà, je suis rentré là-dedans assez simplement, parce qu'avec Jacques, ça se fait de toute façon très simplement. On fait du plateau tout de suite. On fait pas trop de travail à la table. On lit avant l'œuvre et puis on fonce, quoi. Alors, par contre, ce qui a été compliqué, c'est l'intérêt d'ailleurs de ce travail, c'est tout ce qu'avait fait au niveau de l'écriture, enfin, comment Jacques Bioulès avait agencé, enfin, le texte. Il a pris des morceaux de texte de toute l'œuvre de Flaubert, et c'est ça qui était passionnant. Et en fait, au début, David Stanley et moi, enfin, l'autre acteur et moi, donc, on joue des copistes. Et on est les copistes de l'œuvre de Flaubert, mais on n'est pas Bouvard et Pécuchet au début. Mmh. Donc voilà, c'était cette espèce de travail un peu en devenir, comme ça, qui était un peu difficile au début à envisager, mais qui s'est fait très simplement. On a fait le jeu, c'est délié très vite entre David et moi, et voilà, moi j'étais très heureux.
Bouvard et Pécuchet, c'est un peu une façon de fustiger la bêtise de ses contemporains.
Oui, mais c'est vrai que...
Il est assez féroce, d'ailleurs, quand même.
Flaubert est très féroce. Il avait une haine de la bêtise de la bourgeoisie. Enfin, c'est une chose qu'il détestait profondément. Mais quand je dis qu'il détestait, ça, il n'avait aucune envie de les fusiller ou de les tuer. Mais c'était le mental qu'il possédait, qui était pour lui une chose catastrophique.
Et moi, j'aurais peut-être sous-titré la pièce, c'est Flaubert ou de la difficulté d'écrire. Ce qu'il fait souvent référence dans le spectacle à la difficulté qu'il a, lui, pour faire une phrase qu'il voudrait être parfaite.
Oui, c'est vrai, vous avez parfaitement raison de signaler ça, et le sous-titre aurait été tout à fait juste. Là, pour s'il fait une reprise, je le mets. c'est vrai qu'il avait cette difficulté. Pourquoi ? Parce qu'on a trop tendance actuellement à prononcer des phrases, des mots, mais le corps n'est pas derrière. C'est-à-dire que la réalisation du mot qui est prononcé n'est jamais effectuée. Je peux vous faire croire pendant 2 heures que je suis un peintre extraordinaire avec des mots. Vous mettez un pinceau de la couleur, vous allez vous apercevoir que tout ce que j'ai dit est complètement faux. Tandis que chez Flaubert, lorsqu'il écrit, étant donné que la phrase respirée est telle, que le mot est parfaitement juste et la pensée est aussi juste. Je ne sais pas si je suis clair avec ça.
Tout à fait, tout à fait.
C'est-à-dire qu'il ne peut pas tricher quelque part. C'est ce qui fait la grandiose, enfin ce qui fait le grandiose de son œuvre et de ses écrits. Et c'est vrai qu'il rature. Il passe son temps raturé, il revient, ça ne marche pas, il revient. Pourquoi ? Parce que c'est un perfectionniste. Et puis aussi parce qu'il lit énormément de choses, il copie lui-même en permanence.
Parce il se documente énormément, parce que
absolument,
il est question à un moment de ses lectures.
294 volumes pour écrire finalement, pour préparer les matériaux pour faire Bouvard et Pécuchet.
Et les lectures qu'il a faites aussi pour Salammbô.
Tout à fait. Hier, nous avons eu une conférence tout à fait extraordinaire faite par Yvan Leclerc. D'ailleurs, c'était très, très amusant parce qu'il convoquait les gens, mais pour des lectures qui duraient 12 à 13 heures, sans interruption. Il ne s'arrêtait pas. Il y avait un repas au milieu, à 19 heures. On mangeait, et après un repas. Oui.
Il aimait bien manger aussi, je crois.
Voilà. À propos d'interruption, on va faire une petite interruption.
D'accord.
Alors, je vous propose avec un quatuor à cordes en sol de Debussy. Est-ce que ça vous conviendrait ?
C'est parfait, je le connais en plus alors. Thank you.
Divergence FM 93.9. Ce qu'on vient d'entendre, c'était Debussy, le quatuor à cordes en sol avec le Quartetto Italiano. C'était donc le scherzo de ce quatuor à cordes. Les Vendredis Théâtre, nous parlons du spectacle Il était une fois Gustave Flaubert au Théâtre du Hangar avec Jacques Bioulès et Jean-Claude Bonifay. On parlait de Flaubert et de la difficulté d'écrire. Mmh. Mais il parle aussi à un moment de la difficulté de se corriger, c'est-à-dire que quand il se relit, qu'il corrige un mot, ça peut modifier en fait plein de pages à l'avance.
Ah, complètement, c'est presque comme un jeu de domino, un mot change, tous les autres mots chutent, il faut tout reprendre et tout réécrire. C'est, je dirais, c'est pas du perfectionnisme, c'est plus que ça, c'est un souci extraordinaire d'un univers poétique qui va, comment dirais-je, le mot va permettre d'apercevoir une image. Ce qu'il y a d'extraordinaire dans, quand on lit l'œuvre de, enfin, de Flaubert, c'est presque des images de cinéma en permanence qui apparaissent, faites par des mots.
Les images de cinéma, par exemple, c'est tout à fait vrai dans tout le début de Salambo, toutes les premières pages de Salambo, où il y a une description extraordinaire et on sent vraiment que... Il y a du travail derrière, il y a de la sueur d'écrivain.
Et ce qu'il y a d'extraordinaire chez lui, c'est qu'il permet à quiconque, même ceux qui n'ont pas lu Flaubert, lorsqu'ils commencent à lire, toutes les images apparaissent. Et ça, je trouve ça pour moi extraordinaire.
Et il a eu un élève, Flaubert, c'est Maupassant, auquel il a inculqué aussi ce sens du mot juste.
Tout à fait.
Et c'est vrai que Maupassant, il a écrit relativement peu de temps par rapport au temps où il a appris à écrire.
C'est vrai, j'ai lu tout ça, c'est formidable.
Moi, je suis un 19e-iste, donc...
C'est très bien. Non, mais c'est vrai que tu pourrais peut-être dire quelque chose. Jean-Claude se soucie de l'écriture et...
Oui, c'est... Moi, ce qui m'a fasciné, c'est quand j'ai vu les manuscrits, donc... qui nous d'ailleurs sont, on les voit dans le spectacle, sont
il y a des panneaux avec des ratures,
sont raturés mais à un point incroyable, ça devient du graphisme, on dirait des œuvres d'art brut presque, d'artistes de maintenant. Enfin, c'est étonnant ce que ça donne comme. Et je savais pas que c'était à ce point-là quoi. Et c'est assez étonnant. Oui, je voulais reparler un tout petit peu du côté visuel, enfin. Presque cinématographique. Enfin, c'est en tous les cas très visuel de l'écriture de Flaubert qui est extraordinaire. Quoi. Et on a d'ailleurs des passages que l'on dit comme ça, notamment sur le théâtre, parce qu'il était passionné de théâtre. Comment il décrit ses sensations, son amour du théâtre, et c'est toujours très très visuel. Et ça, je trouve ça très moderne. Quoi, pour...
Mais il a d'ailleurs commencé à écrire du théâtre sans grand succès, Flaubert.
Oui, il a écrit une pièce qui s'appelle Le Candidat. Il y en a une autre dont j'ignore le nom. Le Candidat, ça a été programmé deux soirs, je crois.
Oui. Après, ça a été c'était un four.
Un four retentissant.
Retentissant. Oui.
Et donc, il y a quand même un côté frustré par rapport au théâtre chez lui.
Peut-être, mais en même temps, quand on lit Salambo, quand on lit La Tentation de Saint-Antoine, ce sont d'admirables pièces de théâtre. Il me semble qu'il serait très facile de faire des dialogues.
En tous les cas, ça a été vraiment une passion, le théâtre. Vraiment, sa grande passion après l'écriture.
C'était le théâtre.
On parlait hors antenne du gueuloir. Le gueuloir, c'est quelque chose d'important chez Flaubert. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot?
Oui, je vais essayer. Le gueuloir, c'était, je dirais... un endroit, un lieu qui n'était pas forcément précis, dans lequel il passait des heures entières à tenter de comprendre ce qu'il écrivait, ce qu'il disait, en le mettant dans la bouche et en le gueulant. J'en reviens. C'est-à-dire que la respiration, si elle est mauvaise, c'est que le mot, quelque part, n'est pas bon. Et si le mot, quelque part, n'est pas bon, donc ils font le réécrire. C'est pas parce qu'il est écrit sur du papier avec une plume d'oie que c'est suffisant. Il faut essayer de voir, de le mettre en bouche. Soyez-en sûr, plus une phrase est sonore, plus elle est belle. C'est une réplique. Et c'est vrai qu'une phrase sonore, il y a des mots qui sont extraordinaires. Par exemple, regardez, le mot de votre radio, divergence, ça sonne totalement. Radio Clapas, ça tombe. Sans vouloir être dur.
Je n'ai pas d'opinion.
Non, mais c'est pas d'opinion, mais c'est pour expliquer que le mot choisi divergence, ne serait-ce que le ans, à la fin, c'est extraordinaire, diverger pour pouvoir proposer plusieurs ans qui sont des modulations à 93,9, etc., etc. Ça, c'est toute l'écriture de Flaubert.
Peut-être. Mais ces ratures, ces fameuses ratures, enfin, venaient de ce souci-là aussi. De, enfin, on a appris hier dans la conférence d'Yvan Leclerc que y a des mots soulignés, c'est simplement parce qu'ils ont la même sonorité qu'un mot précédent, tout proche, et ils ne toléraient pas ça du tout. Donc, il fallait un espace suffisant d'allitération, enfin de sons semblables. Il fallait au moins 10 lignes d'écart avant de remettre un mot qui rappelait, qui avait la même sonorité qu'un mot précédent. Et il était vigilant là-dessus, ce qui faisait que donc il raturait des paragraphes entiers pour changer le mot. Quoi.
Moi, je me souviens que j'avais lu à un moment sa correspondance avec Louise Collet,
oui,
où il expliquait que l'un de ses modèles, si ce n'est son modèle, c'était la phrase de Chateaubriand. Et je crois qu'il y fait mention en même temps dans le spectacle.
Oui, tout à fait.
Et il y a Voltaire, Chateaubriand.
Voltaire, Montesquieu, La Bruyère.
Aussi.
Il faut que ce soit clair comme du Voltaire, touffu comme du Montaigne, nerveux comme du La Bruyère et ruisselant de couleurs toujours.
Voilà, donc c'est le spectacle. Donc il était une fois Gustave Flaubert. C'est donc au Théâtre du Hangar. Yves, c'est écrit tout petit. Est-ce que tu peux me rappeler les dates et les horaires ?
Mais bien sûr, alors c'est jusqu'au 31 octobre, n'est-ce pas ? Et donc c'est jusqu'à la fin de la semaine prochaine, je crois. Et alors au niveau des horaires, alors c'est un petit peu compliqué. C'est parfois à 20h45, parfois à 17h, à 19h. Ah, oh, j'arrive pas à me retrouver dans tous ces chiffres.
Vous me le dites ?
Allez-y, allez-y.
Alors mardi 20h45, mercredi, jeudi 19h, vendredi, samedi 20h45, dimanche 17h.
Et voilà, bon, on va se quitter là-dessus. Merci d'être venu nous parler de Gustave Flaubert.
Merci.
Lisez Gustave Flaubert de
absolument
toute façon. C'est le conseil que je donnerais pour ce mot de la fin, pour cette émission. Donc, Vendredi Théâtre, merci Yves de nous avoir accompagnés.
Merci
à Bruno, Bruno à la technique, sans lequel nous ne serions pas là. Et on va se quitter pour cette première donc, des Vendredi Théâtre avec Ravel, le quatuor à cordes en fa.
Merci à toi Florent aussi.
Merci.
Merci à vous tous.